Bonjour à tous. Alors voici quelques mots de commentaire du sujet de l'UE3 du DCG, droit social 2018. Alors, en ce qui concerne tout d'abord la forme du sujet, on avait vraiment quelque chose de tout à fait classique, trois parties. Une longue première partie consacrée à la résolution de situations pratiques, 13 points. Ensuite, seconde partie, une question de cours sur 3 points. Et puis enfin, une étude de documents, 3 questions et 4 points. Donc, c'est tout à fait banal. Et puis, il y avait une annexe qui concernait les ordonnances une des ordonnances du 22 septembre 2017. Alors, ce qui était un petit peu original, c'est le fait que dans ce sujet, il y avait davantage de questions relatives aux relations collectives du travail que d'habitude. Le plus souvent, ce sont les relations individuelles qui constituent l'essentiel du sujet. Il y a une ou deux questions sur les relations collectives. Là, c'était un petit peu plus équilibré. Il y avait quand même plus de questions sur les relations collectives, mais sur les relations individuelles, mais il y avait quand même pas mal de choses sur les relations collectives. Et puis, un petit peu étonnant aussi, pas de questions cette année sur la protection sociale. Alors, ce sujet, dans son ensemble, était vraiment très accessible. Il n'y avait aucune question piège. Il n'y avait pas de questions sur lesquelles on pouvait être hésitant. Donc, je pense qu'il était assez accessible. Alors, certes, il portait parfois sur de petits points du cours. Mais voilà, tout était bien dans le cadre du programme. Donc, normalement, il ne devait y avoir aucun problème pour qui, évidemment, avait une connaissance complète de son cours. Alors, si on vient un petit peu dans le détail, l'étude de situation pratique, il y avait 9 questions quand même au total. La première concernait l'intéressement, donc il fallait se demander si on pouvait mettre en place un intéressement dans l'entreprise en question. Donc, c'était le champ d'application. Et puis, quel contenu l'accord de participation devait avoir. Donc, il fallait évidemment rappeler ce qu'est l'intéressement. Il fallait dire que c'est un dispositif facultatif. Et puis, il fallait rappeler aussi que dans toute entreprise, on peut le mettre en place à condition que l'entreprise, l'employeur soit à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel. Et là, on en arrivait à la conclusion que dans cette société, on vous disait que les institutions représentatives du personnel avaient été valablement mises en place, eh bien, rien ne s'opposait à la conclusion d'un tel dispositif d'intéressement. Puis le deuxième aspect de la question, ce qu'envisageait le gérant, est-ce que c'était possible? Oui, c'était possible pour l'exclusion des intérimaires qui, de toute façon, n'étant pas des salariés de l'entreprise, ne peuvent pas bénéficier d'un accord d'intéressement. Voilà, les intérimaires peuvent en bénéficier, mais pas dans l'entreprise utilisatrice qui n'est pas leur employeur. Voilà, et en revanche, pour la durée, ben, il fallait préciser que une durée d'un an renouvelable n'était pas envisageable puisqu'il fallait une durée de 3 ans. Donc, pas de difficulté particulière là-dessus. Deuxième dossier et deuxième question. Il s'agissait de la dénonciation d'un accord d'entreprise et des conséquences d'une telle dénonciation. Et là, il fallait évidemment faire une distinction très nette entre la période dite de survie, c'est-à-dire le préavis plus la période de négociation qui peut durer 12 mois. Période de négociation pour conclure un nouvel accord. Et au cours de cette période de survie, ben, le texte dénoncé continue à s'appliquer normalement à tous les salariés. Et puis, la deuxième période, c'est ce qui se passe à l'issue donc de la période de survie, lorsqu'il n'y a pas d'accord de substitution, et à ce moment-là, eh bien, le texte d'énoncé ne s'applique plus, mais en revanche, les salariés peuvent toujours prétendre au maintien de la rémunération annuelle des 12 derniers mois. Voilà, application au cas, mais les salariés qui pensaient pouvoir continuer à bénéficier de ces 3 jours de congés supplémentaires, mais ce n'ont pas raison. Ils pourront continuer à en bénéficier pendant la période de survie, c'est-à-dire pendant la période de négociation. Mais si à l'issue de cette période, il n'y a pas de nouvel accord, ils n'auront plus droit aux congés supplémentaires. Voilà, puisque la théorie des avantages acquis a été remise en cause par la loi d'août 2016. La troisième question portait sur les modalités d'information des salariés en matière de période des congés payés et date de congés payés. Et donc, dans les deux cas, il fallait dire que la période de congé payé comme l'ordre des départs en congé sont fixés par accord collectif ou à défaut par l'employeur après avis des représentants du personnel. Dans le cas de la période des congés, il fallait préciser qu'elle inclut nécessairement la période qui court du 1er mai au 31 octobre et que l'employeur doit informer les salariés à ce propos au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période. Et donc, il fallait en conclure que dans le cas de ce monsieur Ruffin, qui voulait connaître dès le mois de mars la période des congés, ben oui, il était tout à fait en droit de le demander, et même l'employeur aurait dû déjà prévenir les salariés avant le début du mois de mars, puisque c'est 2 mois avant le début de la période légal, donc 1er mai, 31 octobre, eh bien, ça veut dire que mars et avril, c'est le délai, il aurait fallu l'informer avant le début du mois de mars. En revanche, pour ces congés, la date de ces congés, l'ordre des départs, comme on dit, eh bien ça, l'employeur n'a l'obligation d'informer les salariés qu'un mois avant les dates en question. Et comme là, le salarié a demandé à prendre des congés du 6 au 25 août, l'employeur n'a l'obligation de l'en informer que un mois avant, c'est-à-dire avant le 6 juillet 2018. Voilà, pas de difficulté là non plus. Ensuite, c'était la question du fractionnement des congés. Donc, il fallait évoquer tout d'abord le congé principal avec cette obligation qu'a l'employeur de permettre aux salariés de prendre 12 jours consécutifs minimum. Il fallait indiquer que ce congé principal pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours, ce qui veut dire que la cinquième semaine de congé doit être prise séparément, ne peut pas être accolée au congé principal, sauf dans des cas particuliers. Et lorsque un salarié ne prend pas la totalité de son congé principal pendant la période légale des congés, l'employeur peut, avec l'accord du salarié, eh bien, fractionner les congés en question et demander au salarié de les prendre en dehors de cette période légale des congés. Mais en contrepartie du fait que ces congés sont pris en dehors de la période habituelle, légale, eh bien, le salarié a droit à des jours supplémentaires, soit un jour, soit 2 jours, selon le nombre de jours fractionnés. Et il fallait aussi préciser que la cinquième semaine de congé payé ne donne pas droit à ces jours supplémentaires, puisque c'est dans la limite de 24 jours. Voilà, donc conclusion de tout ça, monsieur Ruffin pouvait, au titre de l'une des 2 semaines qu'il prenait, l'une à Noël et l'autre en février, pouvait obtenir 2 jours supplémentaires. Il n'y a qu'une des 2 qui est prise en compte puisque l'autre, c'est la cinquième semaine de congé payé. Pas de difficulté non plus là-dessus. Ensuite, la question du droit à une indemnité de licenciement et du calcul, des modalités de calcul. Donc là, évidemment, il fallait connaître la nouvelle règle applicable, c'est-à-dire au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue pour les conditions de versement, en ajoutant bien sûr qu'il fallait pas non plus être licencié pour faute grave ou lourde. Mais de ce point de vue-là, pas de problème pour ce monsieur de fer, puisque il est licencié pour faute sérieuse et il a 10 mois d'ancienneté. Donc, il peut prétendre à une indemnité. Calcul de cette indemnité. Donc, nouvelle règle de calcul. Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et un tiers au-delà. Donc, pour ce monsieur de fer, ben, ça fait une indemnité qui sera très faible, donc, puisqu'il aura droit à 10 douzièmes, puisque l'année n'est pas complète, on fait au prorata du nombre de mois, 10 douzièmes de un quart de salaire mensuel. Voilà pour cette question, pas de difficulté non plus là. Ensuite, peut-être un petit peu plus délicat, mais encore, on vous demandait si le reçu qu'il a signé, le reçu pour solde de tout compte qu'il a signé, l'empêche de réclamer le paiement de 3 heures supplémentaires qui n'étaient pas mentionnées justement sur le reçu pour solde de tout compte. Alors, il fallait évidemment définir le solde de tout compte, le reçu, dire que le reçu peut être dénoncé dans les 6 mois, mais il peut être dénoncé pour les sommes qui y figurent. Et pour les sommes qui y figurent, s'il n'est pas dénoncé, il a un effet libératoire, c'est-à-dire que l'employeur est considéré comme ayant remplit ses obligations à l'égard du salarié. Si en revanche la réclamation porte sur des sommes qui ne figurent pas sur le reçu, à partir de ce moment-là, eh bien, le salarié a 3 ans pour agir. Donc, comme les 3 heures supplémentaires dont Monsieur Defer réclame le paiement ne figurent pas sur le reçu pour solde de tout compte, le fait qu'il l'ait signé ne l'empêche pas d'agir et il aura 3 ans pour ça. Ensuite, on revenait à des questions relatives aux relations collectives de travail pour savoir si la convention de branche nouvellement étendue s'appliquait à la société Bioval. Alors là, après la dénonciation de la convention collective, c'était l'extension de la convention collective. Donc, il fallait définir hein, cette opération qui consiste à étendre les dispositions d'une convention collective de branche à toutes les entreprises du secteur professionnel et territorial qui n'en étaient pas signataires ni directement ni par l'intermédiaire d'une organisation patronale. Et donc, bah, on arrivait à la conclusion que la société, si elle entrait dans ce champ territorial et professionnel, devrait appliquer la convention collective. Ensuite, on avait la question 8 qui était peut-être la plus délicate. Et ce qui était délicat, c'était surtout le fait qu'on avait mis à votre disposition des annexes qu'il fallait donc bien lire, comprendre. Et ça n'était pas si simple. Alors qu'en fait, la question, elle, était très simple. Et il y avait dans votre cours absolument tous les éléments pour y répondre, même sans cette annexe. Donc, ça concernait le nombre d'heures complémentaires qu'un salarié à temps partiel peut effectuer. Il s'agissait de déterminer si ce sont les dispositions, si l'employeur doit appliquer les dispositions d'un accord d'entreprise, d'un accord de branche ou les dispositions du code du travail. Bon, la règle, je vous le dis, elle était dans le cours hein, très clairement. Le nombre d'heures complémentaires que peut accomplir un salarié à temps partiel est fixé par accord d'entreprise et à défaut par accord de branche, et en l'absence de tout accord collectif d'entreprise ou de branche, eh bien, on applique la règle du code du travail, c'est-à-dire la règle d'un dixième de l'horaire prévu au contrat. Donc, c'était très clair. Les annexes le confirmaient. Donc, c'est sûr qu'il fallait dire 2 petits mots sur il fallait analyser d'une certaine manière l'annexe pour dégager la règle en question. Voilà. Et donc, il fallait en conclure que c'était l'accord d'entreprise qui allait s'appliquer lorsqu'il serait conclu. Donc, un quart d'heures complémentaires, un quart de la durée prévue au contrat de la salariée, Madame Joubert. Sauf que là, il fallait faire attention. Madame Joubert a un horaire de travail de 30 heures. Un quart, ça fait 7h30. 7h30 complémentaires. Mais, comme vous le savez, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour conséquence de porter l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale. Donc, pour elle, c'est nécessairement limité à moins de 5 heures puisque on ne peut pas rajouter à son horaire de 30 heures hebdomadaires, un nombre d'heures qui amènerait ça à la durée légale, c'est-à-dire à 35 heures. Donc, c'est moins de 5 heures d'heures complémentaires. Et puis, dernier point des situations pratiques, dernier dossier, ça concernait les pouvoirs des agents de contrôle de l'inspection du travail. Donc, cet employeur avait, c'était assez drôle d'ailleurs, dit à l'inspecteur du travail qui se présentait que il ne pouvait pas le recevoir. Il l'a prié de prendre rendez-vous et il a refusé de lui fournir les documents. Bref, il avait tout faux, hein, vous vous en doutez, puisque après avoir rappelé que l'inspecteur du travail a un droit d'entrée dans l'entreprise, droit d'entrée, de circuler dans l'entreprise, à tout moment, à partir du moment où il y a des salariés occupés, il n'a pas du tout l'obligation de prévenir l'employeur ni de prendre rendez-vous, et qu'il a également un droit de se faire présenter tous les documents obligatoires et tous les documents qui sont nécessaires à ces vérifications que le droit du travail est bien appliqué dans l'entreprise, on en concluait que le gérant n'avait pas donc respecté ses pouvoirs de l'inspecteur du travail, ce qui constitue un délit d'obstacle susceptible d'être sanctionné à la fois par une peine d'amende lourde et une peine d'emprisonnement. Voilà, donc je m'arrête là pour l'instant dans ce commentaire, parce que si le message est trop long, il ne passera pas, et je réenregistre un autre message. À tout de suite.